Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Russian spy from KGB.
He don't care
about you and me.
He has a power and control. He's an evil troll.
He will bring
you to the top.
And he is a
Russian ball.
You can laugh, but laugh again. He's got a dirty plan.
Bonjour à tous et à toutes. Depuis une dizaine de jours, cette petite ville du sud de l'Angleterre est sous le feu des projecteurs avec un scénario digne des pires moments de la guerre froide. C'est à Salisbury, connu jusque-là pour sa cathédrale médiévale et sa proximité avec Stonehenge, que l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Yulia ont été victimes d'un empoisonnement par un agent innervant. Une substance qui, en contact avec la peau ou les poumons, cause des dégâts importants à l'organisme. Un des premiers policiers arrivés sur les lieux a lui aussi été empoisonné. Et même si les zones contaminées sont totalement isolées, la population n'est pas vraiment tranquille. Le reportage à Salisbury de Marie Billon.
L'endroit a l'air idyllique. Depuis un petit pont sous lequel passe un cours d'eau bruyant, on aperçoit une grande bâtisse en pierre, une ancienne étable datant du XVIIIe siècle avec un petit jardin. C'est le Mill Pub, là où Sergueï Skripal et sa fille Yulia ont pris un verre dimanche 4 mars avant de se rendre quelques mètres plus loin dans le restaurant de la chaîne Zizi. C'est tout près de là qu'en milieu d'après-midi, ils ont été retrouvés inconscients sur un banc.
Salisbury est une ville paisible, très calme, il ne se passe jamais rien ici. Tout ça, ça inquiète les gens, ça ne donne pas envie d'être là. Je me dis que je dois continuer à vivre comme d'habitude, mais ça reste dans ma tête, tout le monde y pense.
Les locaux vaquent tant bien que mal à leurs occupations, même s'ils doivent parfois faire d'assez grands détours. Une partie du centre-ville reste fermée par un cordon de sécurité. Des tentes de protection sont toujours dressées, a priori aux endroits où des traces de l'agent innervant ont été retrouvées. Plus préoccupant encore pour la population locale, la police a continué à agrandir le périmètre de sécurité plus d'une semaine après la tentative de meurtre. Mardi, c'est la caisse automatique du parking public où l'ex-espion s'est garé qui a été scellé. C'est là que Linda et son mari se sont garés le dimanche du drame.
C'est inquiétant, on ne sait pas s'il reste encore du produit. Et s'entendre dire une semaine plus tard qu'il faut laver ses affaires, c'est trop tard. Si on doit être contaminé, on sera contaminé, on l'est peut-être déjà.
Car la police a quand même attendu 8 jours après le drame pour donner enfin des consignes aux personnes qui avaient fréquenté le pub et le restaurant où sont passés Sergueï et Yulia Skripal. Elles ont appris qu'elles devaient nettoyer leurs affaires avec minutie, mais au savon, alors même que la table sur laquelle les deux Russes ont mangé, fortement contaminée, a été rapidement détruite et que les vêtements des serveurs ont été brûlés. Certains ont l'impression que les autorités font de la rétention d'informations.
On a le droit de savoir la vérité. Je pense qu'on nous ment pour l'instant. On sait que le poison n'est pas dans l'air, parce que sinon, on serait tous morts. Mais c'est très bouleversant.
Malgré tout, les Britanniques ont une réputation à tenir, assurent certains locaux. En marchant sur la rue principale et en passant devant le pub, ils jettent un coup d'œil aux policiers qui gardent le périmètre, mais continuent vaillamment leur chemin.
Je ne suis pas inquiet du tout. C'est vrai que la ville est quand même un peu plus calme aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais il y a certains endroits qui sont interdits d'accès, donc bon. D'ailleurs, aucun de ces magasins n'a rouvert. Ça va faire un grand manque à gagner pour eux.
Beaucoup d'habitants s'inquiètent pour l'économie locale, justement. Surtout pour les boutiques dans le centre commercial des Maltings, dont une partie est fermée depuis le drame. L'équivalent de la mairie de Salisbury, le Guildhall, se trouve sur une petite place assez vide. Matthew Dean est le council leader, le chef de l'autorité locale.
Dès que les périmètres de sécurité seront levés, les magasins vont vite reprendre une activité normale. Mais je vais essayer de travailler avec les propriétaires du centre commercial pour discuter d'une réduction des loyers, voir avec les autorités régionales si on peut envisager une baisse des impôts sur les entreprises pour les boutiques qui ont été affectées.
Matthew Dean n'a pas peur non plus que la nouvelle renommée internationale de Salisbury ne nuise au tourisme. Ses points d'attraction principaux sont loin du centre affecté, que ce soit sa cathédrale médiévale ou bien le site néolithique de Stonehenge.
En Russie. Russie, il compte parmi les soutiens indéfectibles au candidat Poutine, ultra favori des élections de ce dimanche, le scientifique Artem Oganov, qui avait quitté le pays au plus fort de la crise il y a 10 ans. À 42 ans, ce chercheur est tout un symbole pour la Russie qui ambitionne de retrouver sa grandeur dans ce domaine, Étienne Bouche.
À l'automne 2015, il faisait la couverture du magazine Ruski Reportyor, présenté comme le nouveau visage de la science russe. Artem Oganov venait de rentrer en Russie, auréolé de sa réputation acquise à l'étranger. Spécialiste en cristallographie, il est désormais professeur à l'Institut Skolkovo, un centre d'innovation pensé comme une Silicon Valley moscovite. Ce projet coûteux a vu le jour en 2010 sous l'impulsion du président Dmitri Medvedev, avec l'objectif de devenir un pôle scientifique et technologique d'envergure internationale. Les cours sont donnés en anglais et sont élaborés en collaboration avec le prestigieux MIT de Boston. En 1998, Artem Oganov ne voyait ici aucun espoir. La Russie traversait une crise économique profonde, subissant une émigration massive de ses chercheurs. Oganov a étudié à Londres avant de partir travailler en Suisse, puis aux États-Unis. Il publie dans les revues scientifiques les plus prestigieuses. En 2015, pourtant, il décide de rentrer en Russie. Cet amateur de thé raconte avoir eu la nostalgie du banya et des baies d'argousier, mais il a surtout bénéficié du programme de méga-bourse mis en place par Vladimir Poutine. Moscou veut rapatrier ses cerveaux, alors forcément, le retour d'Artem Oganov est un symbole. Cet automne à Sotchi, le chercheur a pris la parole au Festival mondial de la jeunesse. Aux yeux du pouvoir, il doit incarner un modèle pour la nouvelle génération. Oganov n'en fait pas secret, il soutient la politique du président Poutine. Si la situation de la science s'est améliorée depuis l'impasse des années 90, la fuite des cerveaux reste toutefois une réalité pour la Russie. Et cela ne concerne pas uniquement la science. Les Russes émigrés sont généralement diplômés de l'enseignement supérieur. Et selon une étude récente, seul un tiers se dit prêt à rentrer au pays. Une réalité qui s'explique notamment par l'instabilité économique que connaît le pays depuis 2014 et par le contexte politique en Russie.
L'inquiétude est vive chez tous ceux qui en Europe luttent contre le racisme. Dans de nombreux pays, les populistes sont au pouvoir ou ont réalisé de très bons scores aux dernières élections, comme en Italie. D'où cet appel à la mobilisation du réseau européen contre le racisme, l'ENAR, basé à Bruxelles, et qui depuis 20 ans milite pour l'égalité raciale et coordonne l'action des mouvements antiracistes en Europe. C'est un reportage de Laxmi Lotta.
Stupeur en Italie après les résultats des élections générales. Le parti d'extrême droite de Matteo Salvini obtient plus de suffrages que son allié de droite Forza Italia. Pour Claire Fernandez, directrice adjointe du réseau européen de lutte contre le racisme, ENAR, les candidats n'ont pas hésité à pointer du doigt les migrants et l'Europe durant la campagne électorale. Le racisme, la peur de l'autre se sont invités dans les discours. Selon Claire Fernandez, c'est une pratique qui touche de nombreux pays européens.
En Pologne notamment, c'est plusieurs communautés qui sont visées, les musulmans, les femmes, les juifs, les migrants. En Hongrie également, ce sont les Roms, les migrants, mais aussi sous un fond d'antisémitisme d'État qui est assez important. Donc c'est très révélateur de tendances européennes.
Les partis d'extrême droite ont le vent en poupe au sein de l'Union. Alors faut-il craindre leur victoire lors des futures élections européennes de 2019 avec un Parlement européen finalement anti-européen. Claire Fernandez.
Le parti démocrate italien était la partie la plus importante du groupe SND, du groupe socialiste au Parlement européen. Donc après la débâcle aussi en France, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester du groupe. Le PPE, donc le parti de la droite traditionnelle au Parlement, a quand même en son sein Orban et le parti Fidesz en Hongrie, qui a des lignes clairement xénophobes. Non seulement les partis traditionnels ne sont pas épargnés, mais les partis anti-européens vont avoir de grosses chances de succès.
Pour éviter ce scénario, le réseau appelle les hommes politiques à prendre des mesures courageuses pour plus d'égalité sociale et à dénoncer les discours qui alimentent la haine raciale.
Pandoro panettone, qual è tuo preferito? Non è solo questione di uvetta o di candita. Non è solo questione di gusto questa mia, è un po' come nel calcio, è una tifoseria.
On est dit souvent sinistré, peinant à se relever de la crise de 2007. Pourtant, 10 ans après, les petites et moyennes entreprises italiennes sont revenues à leur niveau d'avant la crise. Le dernier rapport sur les PME italiennes pointe en effet une reprise des investissements, plus 10% de création de micro-entreprises et ralentissement de 20% des fermetures d'entreprises l'année dernière. Un pan entier de l'économie qui reprend donc, souvent soutenu par une longue tradition d'entreprise familiale. Écoutez le reportage de Cécile Debarge à Castelfranco Veneto, dans les ateliers de fabrication de l'un des meilleurs panettone du nord de l'Italie.
Découvrir les secrets de fabrication du panettone, c'est d'abord être enveloppé d'une odeur de brioche à peine sortie du four. De la farine, du sucre, des œufs, du levain et une recette qui se transmet de génération en génération.
Là. Notre particularité, c'est de faire lever tous nos pains et nos brioches avec un levain naturel, qui est aujourd'hui à près de 86 ans.
Chaque soir et depuis 86 ans, une partie de la pâte à brioche est conservée pour servir de levain naturel le lendemain. Une recette ancestrale directement héritée des grands-parents Fracaro. Dans sa blouse blanche, le maître des lieux montre fièrement les farines biologiques entreposées dans l'immense remise de son laboratoire en périphérie de Castelfranco Veneto, au cœur de la Vénétie.
Moi, je suis Michele Fracaro, l'entreprise s'appelle Fracaro Spumadoro, car en réalité, c'est une entreprise familiale. Elle est née en 1932. Mes grands-parents avaient une petite boulangerie et ensuite, après la guerre, on a commencé à faire aussi des desserts.
Cela fait déjà 19 ans que l'entreprise travaille en partie avec des produits biologiques.
Allez, on entre dans le cœur de l'entreprise.
Derrière les périodes de plastique qui séparent l'atelier de fabrication de l'entrepôt, des dizaines d'employés travaillent la pâte briochée. Depuis 1932, la petite entreprise familiale n'a cessé de s'agrandir. L'atelier de fabrication actuel a ouvert en 1968.
Là, c'est la ligne de production des gâteaux pour le goûter. La pâte entre par ici. Et ensuite, on met la garniture, la crème pâtissière, abricots, cerises, cacao.
Les croissants défilent sur un tapis roulant avant d'être cuits dans l'un des grands fours desquels émane une odeur sucrée. À chaque pièce, son étape de fabrication. La force de l'entreprise, c'est d'avoir très tôt misé sur des produits de haute qualité jusqu'à obtenir le label de Slow Food, une association qui valorise les produits de pure tradition italienne.
On a été choisi par Slow Food justement parce qu'on a toujours souhaité conserver notre levain naturel et continuer de tout faire dans le respect de la tradition.
Les fruits confits ajoutés à certaines brioches viennent d'une région des Pouilles qui a maintenu sa culture d'agrumes, plus cher et moins répandu que les agrumes siciliens qui inondent le marché italien.
Notre idée, c'est de s'orienter vers des marchés de niche où les gens pourront comprendre le prix et le payer.
Une formule payante au moment d'affronter la crise du marché italien avec une part toujours plus importante d'exportation vers l'étranger. 35% du chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisé grâce aux ventes hors du territoire italien. En tête, France, Angleterre, Australie et Allemagne.
Cette année, on a eu 2% de croissance de chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires total de 7,8 millions d'euros.
Mais à l'image de nombreuses petites et moyennes entreprises italiennes, l'un des secrets de l'entreprise Fracaro Spumadoro est qu'elle s'est construite en famille.
L'union fait la force et en plus, nous sommes une famille très élargie. Donc pour moi, c'est une opportunité en plus.
En 2016, lorsque l'atelier décide de s'agrandir et de proposer un espace de restauration, personne n'hésite à se lancer.
Par exemple, quand on a dû faire cet investissement il y a 2 ans, et ça n'a pas été difficile du tout, chaque associé a donné son accord. Et ce faisant, on sait qu'il investira aussi toute son énergie et toutes ses forces.
Surtout, travailler en famille, c'est pour beaucoup la garantie de pouvoir faire front face aux problèmes. Si l'entreprise traverse un moment de turbulence économique, chacun met la main à la poche.
Nous sommes une entreprise historique qui n'a jamais eu de problèmes économiques et notamment parce que, comme je le dis souvent, nous sommes une grande famille et que les rares fois où on a eu besoin d'un prêt de la banque, ils nous ont toujours fait confiance.
Outre ces brioches traditionnelles, l'entreprise mise aujourd'hui sur sa gamme vegan, sans produits d'origine animale, qui séduit particulièrement en Allemagne. Une manière pour la petite boulangerie d'autrefois de faire goûter toujours plus loin les spécialités vénitiennes.
À voter.
Le gouvernement. gouvernement français souhaite introduire un peu plus de proportionnel dans le scrutin électoral. Ces mesures seront présentées à la mi-avril, quelques semaines après des élections italiennes dont le résultat déconcertant s'explique en partie par un mode de scrutin largement proportionnel. Les difficultés de constituer une coalition en Allemagne ont également été pointées du doigt par les adversaires de la proportionnelle dans l'Hexagone. Qu'en est-il donc des systèmes de vote dans les pays de l'Union? Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors avant toute chose, un rappel, qu'est-ce qui distingue le système majoritaire du système proportionnel?
Le système proportionnel consiste à désigner les élus en fonction du pourcentage de voix obtenu par le parti dont ils se réclament. Par exemple, les candidats En Marche ont recueilli lors des dernières élections législatives françaises un peu plus de 28% des suffrages. Selon un système proportionnel, ils auraient dû obtenir 28% des 577 sièges de l'Assemblée nationale, soit 162 députés. En réalité, ils en ont obtenu 308, soit près du double, parce qu'ils ont été désignés au scrutin majoritaire à deux tours. Un scrutin qui se déroule dans le cadre d'une circonscription et ne retient finalement que le candidat arrivé en tête au second tour. Selon le principe du « winner takes all », le vainqueur prend tout.
C'est un système un peu injuste donc.
C'est un système d'élimination qui oblige les électeurs du premier tour à se reporter sur les candidats les mieux placés. L'avantage du système majoritaire est d'offrir aux partis victorieux une majorité claire au Parlement, ce qui permet la désignation de gouvernements cohérents. C'est peut-être injuste, mais c'est efficace. La proportionnelle, au contraire, reflète l'opinion des électeurs, mais elle a pour effet de morceler les partis, ce qui oblige ensuite à de laborieuses négociations entre partis pour constituer une majorité. Elles ont duré plus de 5 mois en Allemagne.
Alors quel mode de scrutin domine en Europe, Daniel ?
De loin, le scrutin proportionnel, souvent aménagé pour éliminer la représentation des tout petits partis, un système qui concerne 20 pays en Europe. Seulement 2 pays ont recours au scrutin majoritaire, la France, on l'a vu, et le Royaume-Uni qui applique un système encore plus tranché, le système majoritaire à un tour, qui favorise le bipartisme. Enfin, 6 pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Lituanie et l'Irlande, appliquent des systèmes mixtes, panachant système de liste proportionnelle et parlementaires élus dans des circonscriptions à la majorité. Cela dit, l'articulation des 2 modes produit des résultats assez conformes au mode proportionnel.
Comment expliquer l'écrasante domination du système proportionnel en Europe ?
Contrairement à la France, dont la Constitution a instauré un régime semi-présidentiel, presque tous les pays de l'Union ont des systèmes parlementaires purs. Dans ces pays, le chef de l'exécutif émane directement du Parlement, qui, de ce fait, doit refléter les nuances d'opinion du corps électoral. En outre, les démocraties du centre et du nord de l'Europe ont une culture de consensus propice au compromis entre forces partisanes peu éloignées sur un plan idéologique. Revers de la médaille, les électeurs ne maîtrisent pas la composition des gouvernements. Ainsi, en Slovaquie, le premier ministre social-démocrate Robert Fico a nommé 4 ministres choisis par les eurosceptiques du Parti national slovaque. En Finlande, le centriste Juha Sipilä a commencé à gouverner en 2015 avec le parti populiste des vrais Finlandais avant de les renvoyer 2 ans plus tard à la suite de la radicalisation du mouvement. Tout cela sans que les électeurs aient leur mot à dire.
La montée des populismes change-t-elle la donne, Daniel ?
Pas vraiment. On l'a vu en Italie, où une réforme finalement rejetée par référendum en décembre 2016 prévoyait notamment d'augmenter le nombre de parlementaires élus à la majorité aux élections législatives. Mais notons qu'une telle prime majoritaire n'aurait fait qu'accentuer le succès des populistes aux dernières élections. Hors problématique populiste, il y a eu aussi des discussions en Espagne ces dernières années, pas pour contester le système proportionnel, mais pour dénoncer un mécanisme favorisant les provinces peu peuplées et le bipartisme. L'explosion de ce bipartisme en 2015 est venue clore ce débat. En réalité, la contestation du mode de scrutin concerne presque exclusivement la France, qui, de la 4e à la 5e République, est passée d'un système proportionnel assez pur à une logique majoritaire pour le moins implacable.
Merci. Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt dans Accent.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot a réalisé cette édition à écouter sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio et sur RFI.fr à la page émission. À demain.